Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une grande figure de notre région, le cardinal Saliège, une figure que certains ont réellement connue quand d'autres savent vaguement qui il est. Fêté récemment à l'occasion des 60 ans de sa mort, cet homme d'église, ancien archevêque de Toulouse, fut déclaré juste parmi les nations pour son action lors de la Seconde Guerre mondiale. Un homme dont l'exemple pourrait bien aujourd'hui encore nous inspirer. Ce matin, donc, pour cette émission à la découverte du cardinal Saliège, je reçois le père Jean-Claude Meyer. Vous êtes historien, prêtre du diocèse de Toulouse et aumônier de la clinique des Cèdres. Bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va faire de l'histoire, mais on va essayer de rendre cette histoire la plus vivante possible. Peut-être avant qu'on commence par le début de sa vie, c'est-à-dire sa naissance et ses jeunes années, est-ce que vous pouvez nous dire ce que le général de Gaulle disait du cardinal Saliège pour bien comprendre à qui on a affaire?
Cet homme était une flamme. Ce fut le témoignage qu'il donna en remontant les allées de la cathédrale Saint-Étienne avec le cardinal Garonne après le décès du cardinal Saliège.
Voilà, donc tout est dit dans cette formule, vous trouvez?
Ah ben, tout est dit. Saliège, ce petit homme de taille, trapu, les yeux toujours vifs, mais en même temps un corps qui progressivement était devenu paralysé, presque une loque. Il fallait le porter à la fin. Cela avait commencé par, en 1932, une atteinte du bulbe rachidien qui progressivement lui laissa simplement la pensée pour pouvoir penser et s'exprimer. Et tout le corps progressivement fut paralysé. Et malgré tout, vraiment, ce qu'a dit de Gaulle, une flamme.
Et il faut le dire aussi en introduction, ça a été une des grandes figures de la résistance spirituelle, en tout cas au nazisme en France.
Oui, ce fut une grande figure, due en particulier à cette impossibilité pour lui de faire des phrases longues, donc de s'exprimer d'une manière très ramassée, vive, qui donnèrent à son message et à sa parole, comme dans les menus propos en particulier aussi, qu'il tenait dans la semaine religieuse, une forme percutante, bouleversante.
Alors, commençons par le début. Cet homme, avant d'être cardinal, né Jules Géraud Saliège. Il est né à Mauriac le 24 février 1870. Qu'est-ce qu'on sait du monde dans lequel il est né, enfin son univers familial? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Il est né dans une famille de paysans montagnards, enfin paysans qui avaient quand même des fermiers aussi. Il est donc né en février 1870. Il perdit son père alors qu'il était encore jeune, enfant, et c'est sa mère qui a dû assurer son éducation. Elle le laissa vivre avec les enfants du village. Elle le laissa accompagner les fermiers, travailler au champ, faire des travaux physiquement durs comme les enfants de son âge. Et à l'âge de 12 ans, il entra au petit séminaire de Plau. Avant d'effectuer sa formation ensuite aux études ecclésiastiques au grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux et à Saint-Sulpice à Paris.
D'accord, alors juste, il rentre au petit séminaire parce que quoi, il a déjà la vocation. Est-ce qu'on sait un peu à quel âge
étant donné qu'il l'a appelé? S'il rentre au petit séminaire à ce moment-là, c'était la vocation d'enfant dans laquelle il s'est développé ainsi, il a suivi la filière suivant sa vocation commencée à cet âge-là d'enfant.
Voilà, donc enfin autre époque, on a envie de dire. Hein. Là, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui.
C'est-à-dire les vocations, elles peuvent naître à l'âge de l'enfance, oui, et pourquoi pas. Mais ensuite, on les réalise un peu plus tard, et donc on met peut-être aujourd'hui davantage de temps à les accomplir. Moi, j'ai été ordonné prêtre à 33 ans, mais c'est plus jeune que j'avais découvert cet appel mystérieux du Seigneur au fond de mon cœur.
Donc, il entre au petit séminaire, puis au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Il est ordonné prêtre en 1895. C'est pareil, qu'est-ce qu'on sait de sa scolarité ou de ses années de séminaire? Est-ce qu'on en a quelques traces?
Ah bien, ce qui domine pour moi, c'est cette montée spirituelle, immédiatement. Lorsqu'il reçoit le sous-diaconat, un an donc avant son ordination sacerdotale, nous voyons véritablement toute la personnalité spirituelle de Saliège. Le sous-diaconat, tel que je l'ai désiré, tel que je l'ai voulu, c'est la communion au sacrifice de Jésus. Le sous-diacre, c'est un être, c'est une âme qui s'est recueillie aux pieds du Christ, qu'il a vu passer, victime permanente, en offrande à son Père pour toute la race humaine. Elle a compris aussi, cette âme, l'incompréhensible indifférence qui accueillait cet amour et la meurtrière blessure que cette indifférence avait dû faire au cœur de Jésus. Et en somme, Saliège s'offrit un peu en communion, en sacrifice, sans penser alors qu'il serait un jour dans la souffrance lui-même.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas malade à cette époque.
Non.
Mais il a déjà découvert ça. Enfin, il avait une grande profondeur spirituelle.
Bien entendu. L'attrait produit dans le sacrifice et la douleur s'impose sur lui. C'est incroyable.
Voilà, c'est la seule chose la seule trace qu'on ait un peu de sa vie spirituelle lors du séminaire, prière, ou est-ce que
elle marque un engagement absolu, entièrement donné. C'est vraiment assumer une vocation à laquelle il sera, un engagement auquel il demeurera fidèle toute sa vie malgré les souffrances dues à sa maladie.
Alors peut-être pouvez-vous en dire un mot davantage, parce que pour des gens qui ont une vie spirituelle très avancée, peut-être que cette prière peut être parlante. Pour d'autres, ça peut paraître choquant. Est-ce que vous pouvez expliciter cette prière qu'il a fait? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, par exemple, qui a pas la foi? Est-ce que, comment vous expliqueriez ça peut paraître un peu morbide de prime abord?
Non, c'est simplement l'engagement entier d'une personne qui se met au service du Seigneur et de ses frères les hommes.
Oui, mais on peut se mettre au service de ses frères les hommes sans vouloir désirer la souffrance, comme cette lettre laisse l'entendre.
Il ne l'a pas désiré, mais il s'est engagé dans cette voie de se donner entièrement en voyant, lui, en contemplant la souffrance du Fils de Dieu.
Alors, donc, on avance. Donc, il devient professeur au petit séminaire de Plot. Peut-être que vous pouvez nous dire où se situe Plot. Puis
c'est le Cantal. Il y sera toujours fidèle. C'est proche de son lieu de naissance. Il est bien sûr cantalien. Il n'y a aucun problème. Entièrement dans tout son tempérament. Tempérament vivace.
Voilà. Voilà. Il devient supérieur du grand séminaire de Saint-Flour.
Et alors, comme supérieur du séminaire, il a des facéties. Il aime jouer, il aime courir. C'est vraiment la vitalité absolue, Saliège. Il ne tient pas en place. On raconte aussi qu'un jour, comme supérieur du grand séminaire, un séminariste, ayant vu la clé sur sa porte, ferme la clé, la ferme à clé, et puis à l'heure du repas, et puis tout à coup, tout le monde de la communauté est réuni pour le réfectoire. Et brusquement, la porte du réfectoire s'ouvre et Saliège apparaît en ayant la porte de sa chambre à la main.
Voilà, ça en dit long sur c'était un homme d'un très fort tempérament.
Voilà.
Alors ensuite, il est mobilisé pour la Première Guerre mondiale, ça vous teniez à le préciser. Il est aumônier militaire. C'est pareil, qu'est-ce qu'on sait de...
Alors il est d'abord infirmier militaire. Il sert comme cela. Et puis, ayant atteint l'âge où il devait être normalement réformé, il devient aumônier volontaire au groupe de brancardiers. Il se trouve dans un secteur particulièrement dur, dans le secteur de Verdun en 1917. Voilà sa citation, je crois qu'il faut la lire, d'un dévouement et d'un zèle inlassable. Il s'est dépensé sans compter pendant le séjour de la division aux Éparges et au Mont Cornillet, visitant journellement les tranchées, malgré de violents bombardements, et donnant ainsi l'exemple de la bravoure et de l'esprit de sacrifice. Il s'est particulièrement distingué au Mont Cornillet le 23 juillet 1917, en se rendant en plein jour et à découvert, jusqu'à la tranchée de première ligne, en grande partie détruite, pour y donner des soins et ses consolations aux blessés. Cela lui vaudra la croix de guerre.
Voilà, donc quel commentaire vous ajouteriez?
Ah bien, là nous avons vraiment Saliège donné à son ministère, donné comme prêtre, absolument.
Ensuite, donc, il est nommé évêque de Gap, Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on sait de cette période, et puis surtout vous teniez à préciser un petit peu l'orientation spirituelle et politique qui était la sienne à l'époque?
Eh bien, comme évêque de Gap, il est nommé en 1925, grâce à Monseigneur de Yobé d'ailleurs, qu'il avait connu en tant que dans les opérations militaires.
Alors Monseigneur de Yobé, juste.
Oui, qui était d'abord qui était un homme très conservateur, mais qui avait admiré Saliège et qui a voulu qu'il soit évêque de Gap. Donc à Gap, Saliège restera très peu de temps, puisque 1925 et en fin 1928, il est nommé archevêque de Toulouse. En 1927, vient de paraître au mois de juillet l'ouvrage de Jacques Maritain, Primauté du spirituel.
Alors Jacques Maritain, il faut en dire un mot, donc c'est un philosophe chrétien de l'entre-deux-guerres, enfin pas seulement, du XXe siècle.
Qui a dû son chemin vers la foi catholique avec sa femme Raïssa, qui était juive, grâce à Léon Bois, ce romancier chrétien qui a marqué profondément par son esprit de pauvreté, sa découverte véritablement de la foi, et qui a entraîné en particulier donc surtout les Maritains. Maritain, philosophe thomiste, grâce donc par ce chemin avec Léon Bois.
Et donc vous précisiez, pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que ça dit son orientation politique et spirituelle du moment dans le contexte français.
Alors à ce moment-là, c'est la montée de l'action française. Et il faut bien quand même se rappeler que Maurras n'était pas croyant. Et il fut un chef politique d'abord. Et son slogan, c'était « politique d'abord ». Face à ce slogan, l'Église a réagi, et notamment le pape Pie XI.
Donc c'était une tentation des chrétiens à l'époque d'avoir une primauté, on va dire, de l'action politique sur l'action spirituelle.
C'est l'action d'une défense par rapport au mouvement laïque, pour ne pas dire laïcard, qui se développait à ce moment-là.
Voilà, et lui donc a une position... Comment vous pourriez la résumer dans ces cas-là?
Primauté du spirituel. Le mot correspond à la réalité. Et dans la semaine catholique de Gap, Saliège reprend cela. L'Église n'a pas discontinué de proclamer son droit imprescriptible d'intervenir dans les choses temporelles, rationé peccati, c'est-à-dire chaque fois que les circonstances manifestent un élément susceptible d'entraîner les citoyens à pécher. C'est là une vérité formellement enseignée par le magistère doctrinal. Dans les principes de la tradition nationale, il faut rejeter expressément ceux qui sont à la racine première des maux dont nous souffrons. C'est la revendication de l'indépendance absolue du temporel. Et l'option alors s'impose, disait Saliège, entre l'esprit de Philippe le Bel et l'esprit de Jeanne d'Arc. Un catholique ne saurait hésiter, un français non plus, qui ne comprend pas aujourd'hui, comprendra peut-être demain.
Alors, le cardinal, enfin, il n'est pas cardinal, hein, donc le père Saliège, Monseigneur Saliège, pardon, est nommé archevêque de Toulouse en 1928, donc c'est un des prédécesseurs de Monseigneur Le Gall, l'évêque actuel de Toulouse. On reviendra évidemment à son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale après une première pause musicale, mais avant de faire cette pause, il y a une ou deux choses encore que vous teniez à nous préciser. C'est le fait que c'était un évêque particulièrement versé dans les œuvres sociales. Et nous dire un mot aussi de sa proximité avec un certain Bruno de Solages. Alors commençons par l'évêque social, qu'est-ce que ça veut dire?
Arrivé à Toulouse, Saliège aimait aller à la rencontre des ouvriers, de ses diocésains, en particulier des ouvriers. Dès son arrivée en moins d'un an, il avait parcouru tout son diocèse. Désirait participer à cette action que voulait le pape Pie XI, c'est-à-dire les chrétiens dans le monde, l'action catholique. Il en fut un militant important, et il sut à ce moment-là s'entourer d'une part par un jeune prêtre, Louis de Courrèges-Dustoux, qu'il chargea justement de former l'action catholique, et Louis de Courrèges-Dustoux en particulier, lança la JAC, la jeunesse agricole chrétienne, dans le Lauragais, dans tout le diocèse de Toulouse.
Alors juste, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'Action catholique, peut-être certains l'ont en tête, c'est un grand mouvement de laïcs qui a commencé justement dans l'entre-deux-guerres et puis qui a explosé après la Seconde Guerre mondiale. Mais on voit pas forcément derrière en fait les œuvres sociales qu'il y a. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors en plus, c'est-à-dire d'une part, il y a ce mouvement militant, les chrétiens dans le monde qui doivent être le levain dans la pâte. Ça, c'est l'Action catholique. Et en même temps, il y a eu un autre aspect, c'est les œuvres sociales qu'il a fallu développer dans le diocèse et qu'il a confié à Courrèges. La maison des œuvres était une véritable ruche qu'on a peine à s'imaginer.
Donc, Monseigneur Saliège était également proche des semaines sociales. Alors là, les semaines sociales, peut-être qu'un certain nombre connaissent, c'est un grand rassemblement, on va dire, des chrétiens engagés dans la société française, considéré comme un peu un rassemblement des chrétiens de gauche, même si c'est probablement une formulation très 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 courte. Et donc, il était proche des semaines sociales. En tout cas, il y a participé. Et à la faveur donc de ces semaines sociales, il a rencontré un certain Bruno de Solages. Vous pouvez nous dire un mot de cet homme et après, on va faire une première pause.
En 1930, Solages était enseigné dans un séminaire et il participait déjà à une réflexion d'ordre social sur la place des chrétiens dans le monde, dans la vie sociale. Il fit une conférence en particulier, une semaine sociale en 1930 la question de la décolonisation, de la colonisation, et les propos qu'il avait tenus à ce moment-là, dans cette conférence, enthousiasmèrent Saliège. C'était évidemment la dignité de la personne humaine.
D'accord, on connaît la teneur de ses propos.
Alors, on connaît la teneur de ses propos, c'était la dignité de la personne humaine, et Saliège lui-même intervient aussi à la semaine sociale de Marseille ultérieurement en 1935, dans la perspective de la personne humaine.
D'accord, et donc le Monseigneur Saliège va le trouver
À la fin de la conférence de Bruno de Solages, Saliège va le trouver et lui dit « Mon petit, je suis fier de toi ». Alors quand Saliège était petit, trapu, et Solages était grand, sportif, on voit la différence. Mon petit, je suis fier de toi. Ça c'était. Et à partir de ce moment-là, leurs vies ont été jointes, parce que Saliège a voulu en faire d'abord un professeur d'Institut catholique de Toulouse, chargé du cours de théologie fondamentale, et ensuite le recteur de l'Institut catholique de Toulouse.
Flamme d'amour vive qui blesse tendrement mon âme en son intimité profonde. Si tu n'es plus rétive, achève maintenant, déchire la toile de cette rencontre. Aux suaves blessures, aux délicieuses plaies, aux tendres mains, aux délicats touchés. Éternelle gâchure qui toute dette paie, tu as tué la mort en vie, tu l'as changé. Aux flammes d'amour vive, brûle en moi. Aux flammes d'amour vive, brûle en moi. Vives lueurs, les profondes cavernes du sentiment. Naguère obscur et creux, par d'étranges faveurs, donne chaleur et lumière à l'amant. Docile et amoureux, tu t'éveilles en mon sein.
Plaisance.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, nous parlons du cardinal Saliège pour cette émission à la découverte du cardinal Saliège. Voilà, probablement bien connu des anciens de Toulouse et de la région Occitanie, mais peut-être beaucoup plus mal connu des jeunes générations. Le cardinal Saliège, donc ancien cardinal archevêque de Toulouse pendant la Seconde Guerre mondiale, grande figure de la résistance spirituelle pendant la dernière guerre, déclaré juste parmi les nations et dont on fêtait la semaine dernière les 60 ans de ses obsèques. Et à la cathédrale de Toulouse, le jeudi 10 novembre dernier, a eu lieu une célébration au cours de laquelle Monseigneur Le Gall, enfin que présidait Monseigneur Le Gall, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Nous sommes ce matin avec le Père Jean-Claude Meyer, qui est historien et prêtre du diocèse de Toulouse, aumônier de la clinique des Cèdres. Alors, avec vous, on a parcouru, peut-être certains ont trouvé que c'était vraiment une émission d'histoire, mais en même temps, c'est le but, hein. On a parcouru les jeunes années de cet homme, enfin, jeunes années un peu plus que ça. On s'était arrêté avant cette pause, donc à sa nomination comme archevêque de Toulouse, aux premières années à la tête de l'archevêché, et puis après, donc, il y a l'arrivée du nazisme, hein, et donc il est nommé archevêque de Toulouse en 1928, ça commence à venir. Son premier coup d'éclat, c'est le 12 avril 1933. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il dit à ce moment-là?
Oui, mais avant même ce coup d'éclat, la semaine catholique du diocèse donnait les nouvelles de la montée du nazisme en Allemagne et on voyait les inquiétudes de Saliège dès ce moment-là. En particulier, en 1931, la semaine catholique se fait l'écho de la déclaration des évêques de 8 diocèses bavarois qu'ils avaient publié dans leur propre bulletin diocésain, donc en Allemagne, devant la montée du nazisme. Et en 1930, donc on trouve dans la semaine catholique de Toulouse les informations.
La semaine catholique de Toulouse, c'était quoi en fait? C'était l'ancienne revue diocésaine.
C'était la revue diocésaine, voilà. D'accord. Et donc tous les prêtres la recevaient, et même plus que des prêtres. Donc c'est l'intervention de Saliège lors d'une réunion de protestation contre l'antisémitisme qui se déroula au théâtre du Capitole en avril 1933. Sous la présidence de César Bru, qui était le doyen de la faculté de droit, vice-président du conseil général, entouré du maire Billière, du rabbin Naon, du pasteur Langereau et aussi du directeur de l'Institut catholique Bruno de Solages. Voilà ce qui proclame Saliège. Si j'ai accepté sans hésitation de prendre la parole devant cette assemblée émouvante, c'est qu'il m'a semblé que j'avais un devoir à remplir. Le devoir d'apporter une sympathie profonde à tous ceux qui souffrent et dont la souffrance fait à mes yeux des êtres sacrés. La persécution éveille dans nos entrailles humaines cet instinct de fraternité que le christianisme y a déposé, comme un germe toujours prêt à éclore et jamais lassé de porter des fruits. Les Israélites me comprendront, et d'autres encore. Je ne saurais oublier que la tige de Jessé a fleuri en Israël et y a donné son fruit. La Vierge, le Christ, les premiers disciples étaient de race juive. Comment voulez-vous que je ne me sente pas lié à Israël comme la branche au tronc qu'il a porté?
Donc c'est son premier grand coup d'éclat, j'ai envie de dire, en tout cas c'est semble-t-il ce que l'histoire retient. Est-ce que vous pouvez contextualiser cette déclaration? C'est-à-dire que, vu de loin, on se dit, bon, on est en 1933, Hitler vient à peine d'arriver à la chancellerie en Allemagne.
Il y a les premiers... disons, prodrome contre les juifs en Allemagne.
Voilà, est-ce que ça demande à l'époque un si grand courage que ça, que de dire ça, et une si grande lucidité?
Ah, c'est la lucidité complète. C'est dans la ligne de Maritain, primauté du spirituel.
D'accord, mais dans le contexte, parce qu'on a envie de dire, alors, dans le contexte, aujourd'hui, on se dit, il a fait son travail. C'est...
Dans le contexte, en France, on ne voyait pas le danger. Et on n'a jamais vu le danger. Plus exactement, on ne voulait pas le voir. La responsabilité, évidemment, des hommes politiques, de tout le monde, de la presse également.
D'accord, donc on voulait pas le voir et lui a su le voir.
Lui a su le voir, comme d'autres, mais là, d'ailleurs, il faut bien le dire que l'action française a vu aussi le danger.
C'est-à-dire ?
Maurras voyait le danger de l'autre côté. Peu importe ensuite les évolutions, il faut bien savoir que les membres de l'Action française se sont séparés en deux. Certains ont collaboré. Et alors par contre, je crois même la majorité a rejoint aussi la résistance.
Alors donc il y a cette déclaration en avril 1933 et puis après à partir de juin 1937 donc dans la semaine catholique de Toulouse, donc vous dites que
il y a quelque chose aussi qu'il faut aussi préciser. En même temps, l'angoisse de l'archevêque était perceptible dans la semaine catholique devant l'évolution du monde entier. Cette immense espérance de Noël 1934, nous vous dirons qu'elle fut partagée par tous nos diocésains qui souffrent. Nous voudrions le redire à nos frères, les catholiques du Mexique, fermes dans la foi. Il y avait la persécution. Nous voudrions le redire à nos frères, les catholiques de Russie, d'Espagne, d'Allemagne, poursuivis d'une haine qui rappelle la parole de notre Seigneur à ses apôtres, « Dans le monde, vous serez mis sous le pressoir ».
Donc à partir de 1937, donc il tient donc dans la semaine catholique un bref article anonyme intitulé « Menu propos ». Alors semble-t-il, quand on s'intéresse à la figure du cardinal Saliège, c'est important parce que ces menus propos avaient un écho considérable dans le diocèse et pas seulement semble-t-il auprès des chrétiens. À quoi ressemblaient ces menus propos? Quels ont été les propos justement et la teneur?
Les propos étaient très très divers. Ça pouvait passer de l'actualité immédiate aussi à des réflexions. Par exemple, les menus propos sur le silence. Il y a le silence forcé, qui n'est pas silence intérieur, qui n'est pas prière d'adoration, mais rêverie, impatience, tentation, comme qui dirait piaffement. Il y a une rupture du silence qui n'est pas apostolat, mais bavardage. Il y a le silence de Jésus durant la passion, devant les insultes et les calomnies. Et Jésus se taisait.
Donc c'était toujours comme ça, bref et incisif.
Bref, incisif.
Est-ce que vous auriez d'autres exemples à nous citer? On y reviendra un peu plus tard.
Sur l'optimisme, l'univers est porté par l'amour. L'homme est porté par l'amour. La charité créatrice et la charité rédemptrice au service de l'homme. Pour comprendre les événements actuels, pour comprendre l'histoire, il faut s'élever par une contemplation silencieuse et par une prière aimante jusqu'à l'adorable Trinité et à l'ineffable incarnation.
Alors on y reviendra. En tout cas, ces menus propos ont eu beaucoup d'écho dans le diocèse. Est-ce que d'une certaine manière, je ne sais pas, ça a travaillé à créer cette résistance spirituelle dont on va parler dans quelques instants?
Mais bien entendu, ces propos étaient toujours incisifs, ils étaient aussi dans l'actualité.
En tout cas, et ils avaient un écho important.
Ils avaient un écho parce qu'ils étaient brefs, et on les guettait, ces menus propos. C'était tellement raccourci, pas besoin de parler beaucoup.
Voilà, mais vous êtes là pour parler, donc je sais, il y a des moments où je sens que vous préfériez pas, mais hélas, c'est la contrainte. Non, je vous taquine. Donc parmi les faits d'armes du cardinal Saliège, enfin qui n'est pas encore le cardinal Saliège, qui est archevêque de Toulouse, il y a donc sa mobilisation, son action en faveur des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est organisée cette résistance? Vous avez parlé de cette résistance spirituelle. On a dit en introduction que ça a été une des grandes figures de la résistance chrétienne pendant la Seconde Guerre, mais concrètement, comment ça se passait à Toulouse? Il y a combien de Juifs qui étaient cachés? Où est-ce qu'ils étaient cachés?
La communauté juive de Toulouse elle-même n'était pas importante à ce moment-là, seulement il y a eu l'arrivée des Juifs qui fuyaient l'oppression. Il y avait aussi ceux qui étaient déjà réfugiés à Toulouse, mais il n'y avait pas que des Juifs réfugiés à Toulouse, il y avait aussi beaucoup de en particulier des Espagnols qui avaient fui l'Espagne franquiste et qui avaient été mis aussi dans des camps, les camps qui avaient été organisés par en 1938 déjà pour recevoir ces réfugiés espagnols.
Donc il y avait des réfugiés espagnols, il y avait des Juifs d'origine étrangère.
Il y avait des Juifs d'origine étrangère qui avaient gagné la France. Et il y avait ensuite la fuite devant l'armée allemande à Toulouse pour éviter la capture par les Allemands. Les Juifs d'Alsace en particulier avaient fui.
Mais alors, où est-ce qu'ils étaient tous ces juifs dans ces cas-là? Où est-ce qu'on, alors, où est-ce qu'on les accueillait? Où est-ce qu'on les cachait?
Quand on pouvait, on les accueillait là où on pouvait. Il y avait d'abord aussi dans le mouvement les Belges qu'il avait fallu accueillir dans la région, les gens du Nord aussi qui s'étaient réfugiés devant l'avance de l'armée allemande et qui ensuite, après l'armistice, ont rejoint leur vie de ville d'origine.
Mais ça veut dire quoi? On les accueillait comme on pouvait? C'est-à-dire, vous me disiez en préparant l'émission que alors, il y en avait beaucoup qui étaient cachés ensuite, à l'archevêché.
Alors, en ce qui concerne les juifs, très vite on su que l'archevêché pouvait accueillir, donner des adresses. La menace au début n'existait pas contre les juifs qui étaient à Toulouse, et en particulier les juifs français. Mais c'est ainsi que des membres de ma famille paternelle avaient trouvé refuge dans la région toulousaine, et en particulier à Haute-Rive. Et à Haute-Rive, ils étaient soignés d'ailleurs par le médecin qui, pendant la guerre, dans l'occupation, qui ne les a jamais dénoncés. Lequel médecin a eu quelques années ensuite à la libération, mais à l'égard de ma famille. Il n'avait pas bougé.
Donc toutes ces personnes étaient accueillies donc à l'évêché, dans des congrégations religieuses, et puis chez les habitants, c'est ça?
En fait, oui.
Il y avait tout un réseau qui s'était développé.
L'évêché donnait consigne aux communautés religieuses d'accueillir les juifs. En particulier, la maison des petites sœurs des pauvres accueillait plus d'une centaine de personnes âgées d'origine juive.
Les petites sœurs des pauvres, donc, ils sont au cœur de Toulouse, dans le quartier de la Côte Pavée. Et donc, sur cette mobilisation en faveur des juifs, il y a l'autre grand fait d'armes, enfin, celui, semble-t-il, que retient surtout l'histoire. C'est le 23 août 1942, l'archevêque Monseigneur Saliège ordonne la lecture dans toutes les paroisses de son diocèse d'une lettre pastorale intitulée, alors vous allez m'aider, Et clamor Jérusalem accendit. Il a été mis au courant, en fait, de l'existence des camps d'extermination. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte?
Des camps d'extermination, il y a peut-être. Il le savait, on ne le savait pas à ce moment-là, à l'époque. On savait la condition dure des camps de détention de déportés en Allemagne. Ça, on le savait dès 1938. Les reportages, il y avait eu des reportages, mais on n'avait pas voulu voir.
Alors, comment il a été mis au courant, lui?
Alors, en particulier, de la situation allemande, Saliège avait été mis au courant dès 1933 par un... D'abord, il n'était pas encore prêtre, puis il fut ordonné prêtre en 1936. C'était René Denoroy, qui avait voulu se former dans la théologie allemande de l'époque, et comprendre la philosophie allemande, et qui allait pendant les vacances en Allemagne. Il avait noué de nombreux contacts, et qui a vu en particulier à partir de 1933, à partir de 1936, où il avait été nommé, après son ordination sacerdotale, et il fut nommé aumônier adjoint de la colonie française à Berlin. Et il tenait régulièrement au courant Saliège et Solages de cette montée effroyable du nazisme qui mettait tout le peuple allemand dans une pression dont il ne pouvait pas échapper.
Mais ma question portait sur les camps d'extermination. J'ai cru comprendre qu'il avait rencontré des personnes qui l'ont alerté et que c'est ce qui a provoqué justement cette lettre pastorale.
Cette lettre pastorale a été portée parce que il avait fait nommer dans ces camps pour les étrangers, qui étaient pour les étrangers, pas simplement dans des juifs, mais tous des étrangers, il avait pu faire nommer une assistante sociale qui était Thérèse Dotti, qui était une enseignante qui avait déjà protesté contre la condition faite aux juifs, et ce qui lui avait valu la radiation de l'enseignement. Et Saliège avait donc pu la faire nommer comme assistante sociale, et elle pénétrait dans les camps du Rissé-Bédou, notamment de Noé, du Vernet, et également Rivesalt.
Et donc,
Le 8 août 1942, elle est un témoin impuissant et bouleversé du premier grand convoi de déportation composé de femmes de tout âge qui partent du camp du Rissé-Bédou. Elle fait le rapport d'abord à la Bégèze, qui était un militaire rentré dans les ordres après 1918, qui avait repris du service.
Alors je vous arrête, parce que but c'est pas de rentrer dans tous les détails. D'accord. En tout cas, le cardinal Saliège est mis au courant par cette femme.
Par cette femme, grâce à Gèze, voilà. Et grâce à Courrèges. À ce moment-là, parce que Saliège voulait toujours être informé directement. C'était à la fois sa qualité, aussi peut-être un peu son défaut, mais il voulait toujours être tenu au courant directement des personnes.
Alors, on va lire un extrait de cette lettre pastorale. Donc, cette lettre pastorale qui, à ce moment-là, donc, est lue dans toutes les paroisses du diocèse. Vous pourrez nous en dire un mot, ça n'a pas été sans difficulté, parce que les autorités françaises de l'époque ont essayé de s'y opposer. Alors, on va peut-être pas lire toute la lettre, mais en tout cas, on va essayer d'en lire des extraits. Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme, ils viennent de Dieu, on peut les violer, il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères, des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe plus? Pourquoi sommes-nous des vaincus? Seigneur, ayez pitié de nous, Notre-Dame de France, priez pour nous. Et puis le texte continue, on y reviendra peut-être après. Est-ce que vous pouvez nous dire la manière dont ça a été reçu et par les autorités françaises à l'époque et par les chrétiens à Toulouse?
Alors, chose surprenante, alors qu'il y a eu ensuite, à la suite de cette lettre, des protestations d'autres évêques, notamment celle de Théas Montauban, qui avait déclaré « Je ne serai pas un chien muet », encore plus ferme que celle de Saliège, 8 jours après celle de Saliège. Bien, c'est celle de Saliège qui a été le plus diffusée. Elle a été recopiée à des milliers d'exemplaires. Les gens, parce que vous l'avez remarqué, les phrases sont brèves, quelques mots. Il ne pouvait pas s'exprimer longuement. Donc, ses propos étaient de plus en plus ramassés. Et il fallait d'ailleurs un traducteur pour le comprendre.
Donc sous le manteau, cette lettre est distribuée partout, en fait.
Premièrement, elle a été diffusée, elle a été envoyée. Le préfet et la préfecture, ayant été au courant de l'envoi de cette lettre, a essayé de la stopper. Et on raconte l'histoire d'un curé qui avait laissé ses lunettes au presbytère, dit, je vais la lire la semaine prochaine. À ce moment-là, le garde-champêtre porte le télégramme du préfet interdisant de lire la lettre. Donc, il est obligé de se faire porter les lunettes. Et puis, il lit le télégramme et il dit, maintenant que j'ai les lunettes, je peux la lire.
Alors, on va finir cette seconde partie d'émission en finissant la lettre. Je vais le faire. Les juifs sont des hommes, les juives sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie bien-aimée, France qui porte dans la conscience de tous des enfants la tradition du respect de la personne humaine, France chevaleresque et généreuse. Je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Horreur qui a été transformée par erreur, sous la pression de son entourage, non? Non.
C'est le préfet voulant interdire, avait demandé qu'on arrête la lettre. Et Courrèges, envoyé en négociation par Saliège, bien sûr, avait pu faire transformer cela. Il avait fait changer simplement de mots. Les scènes d'épouvante sont devenues des scènes émouvantes. France, tu n'es pas responsable de ces horreurs, c'est devenu France, tu n'es pas responsable de ces erreurs. Et Saliège fut ainsi content du tour qu'il avait joué à l'autorité préfectorale.
Thank you.
Radio Présence dans le Comminges 94.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission à la découverte du cardinal Saliège avec le père Jean-Claude Meyer, donc, qui est historien, prêtre du diocèse de Toulouse et aumônier de la clinique des Cèdres, qui ce matin essaye de faire revivre cette figure qui est une des grandes figures de la région et de Toulouse, donc ce cardinal Saliège, grande figure de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, dont on fêtait les 60 ans de ses obsèques en la cathédrale Saint-Étienne le jeudi 10 novembre dernier. Avant qu'on aborde peut-être l'un ou l'autre aspect de sa personnalité et du souvenir que l'on en garde aujourd'hui encore, ici, est-ce que vous vouliez encore nous dire un mot de la situation des Juifs pendant la Seconde Guerre, particulièrement après novembre 42?
Alors, à partir de novembre 42, c'est l'occupation de la zone sud, et la situation des Juifs qui avaient trouvé refuge dans la région toulousaine, des Juifs de France même, français de naissance, eh bien elle devient impossible, ils sont menacés d'arrestation. Et à ce moment-là, il faut les perquisitions d'une part de la milice, d'autre part de la Gestapo elle-même à la recherche des Juifs, obligent à encore plus de prudence. Il y aura 1 millier d'arrestations de Juifs dans la région toulousaine.
Et donc, que fait l'Église du coup à ce moment-là?
Alors à ce moment-là, il faut se cacher de plus en plus, en particulier les Juifs qui avaient trouvé refuge chez les petites sœurs des pauvres, il faut immédiatement les exfiltrer, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est en lien avec la résistance juive dans le Gers que l'on peut faire cette exfiltration. Elle réussit à se faire petit à petit, grâce aussi en particulier à l'intervention du jésuite, le père Braun. Voilà. À ce moment-là aussi, avant même l'occupation de la zone sud, Charles Lederman avait pris contact avec Mgr Saliège.
Alors juste, Charles Lederman, qui est-ce?
C'était le responsable de l'OSCE, l'organisation de sauvetage des enfants juifs, une organisation officielle. Il introduit l'ingénieur juif Garel auprès de Saliège. Et Garel a l'intuition qu'immédiatement, il faut que l'organisation de sauvetage des enfants deviennent une organisation clandestine et qu'il faut monter vraiment un réseau véritable de sauvetage.
Et donc, qu'est-ce qui se passe alors?
Alors, à ce moment-là, Garel rencontre Mgr Saliège. Voilà ce qu'il dit. Je ne peux pas dire que nous soyons liés d'amitié, car ce serait mal définir les rapports qui se sont établis entre nous. Mais il y avait certainement un élément d'amitié de mon côté, très respectueux, de son côté, beaucoup plus paternel. Et immédiatement, Saliège comprend et donne un mot de recommandation à Garel pour qu'il puisse aller aussi rencontrer dans d'autres diocèses, pas simplement à Toulouse, dans le diocèse de Toulouse, mais ailleurs, des institutions religieuses pour pouvoir organiser ce réseau de sauvegarde des enfants.
Donc on sait combien il y aura d'enfants via le cardinal Saliège qui ont été protégés?
Alors,
ou...
On ne peut pas savoir le nombre, mais enfin, à Toulouse, ce que l'on sait...
Mais c'est quoi, c'est des dizaines, des centaines, des milliers?
Non, on ne peut pas dire des milliers, mais le réseau de l'OSE qui a commencé à Toulouse son œuvre de sauvetage des enfants, ça, l'ingénieur Garel, après la guerre, pourra le dire, donne un témoignage de reconnaissance à celui qui fut, sur ordre de Mgr Saliège, l'âme de ce réseau, c'est-à-dire Louis de Courrèges du Stou, qui était l'évêque auxiliaire de Saliège depuis 1935. C'est lui qui a eu la charge de rencontrer Garel, et ainsi se forma le réseau de sauvetage des enfants, partant de la colonie de vacances Sainte-Germaine, dirigée par Mademoiselle Thèbes, qui mit les relations avec les religieuses de Massy. Et ainsi fut le sauvetage des enfants.
Alors, sur l'homme, en préparant l'émission, j'ai entendu dire, mon petit doigt m'a dit que cet homme, certes très admiré, n'avait pas toujours laissé un souvenir facile aux uns et aux autres, et qu'il était d'une certaine manière assez caractériel. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire de ça, pour être tout à fait juste peut-être? Alors on n'est jamais juste sur une personne, seul Dieu connaît les personnes de l'intérieur, mais j'imaginais, enfin je me disais qu'il fallait quand même apporter quelques précisions sur ce sujet.
Saliège était un homme entier, mais il aimait aussi jouer, plaisanter, et parfois ses plaisanteries, elles étaient dures. Le cardinal Garonne, qui devint le coadjuteur de Saliège après 1945, à partir de 1947, n'eut accès à la responsabilité du diocèse qu'en 1955. Ce qui veut dire que pendant 7 ans, Saliège ne lui avait accordé aucun pouvoir, pratiquement aucun.
Donc, qu'est-ce que ça dit sur l'homme? Il était de fait pas facile à vivre. Et...
L'homme autoritaire, qui, conscient de sa responsabilité de chef de diocèse, voulait continuer à diriger son diocèse. Il le faisait. Il disait, un diocèse ne se dirige pas avec les jambes, mais avec la tête. Cela veut tout dire. Et en même temps, dans ses plaisanteries qu'il pouvait donner, quand il se rendait compte qu'il avait pu blesser quelqu'un par ses propos, il se faisait ensuite, il s'amadouait aussitôt. Mais malheureusement, se souvint le cardinal Garonne, eh bien, il ne s'en rendait pas compte le plus souvent.
Vous, en préparant l'émission, vous disiez en fait qu'il fallait pas dire un homme caractériel, mais qu'un homme qui était malade.
C'est ce que m'avait dit Garonne, le cardinal Garonne, quand je l'avais rencontré. Il m'avait dit, c'était un malade. Et
Garonne... Qu'est-ce qu'il entendait par là? Parce que ça peut être mal compris.
C'est... La souffrance de son corps était telle. C'était un calvaire. Garonne me l'avait dit aussi, Saliège a vécu un calvaire. Alors, cela se retrouvait dans ce qu'il pouvait exprimer ensuite, parfois par des brusqueries.
Pour finir, je voulais revenir avec vous sur l'homélie qu'a prononcée donc Monseigneur Le Gall à l'occasion des 60 ans de ses obsèques. Donc c'était le jeudi 10 novembre dernier en la cathédrale Saint-Étienne. Alors on va pas lire cette homélie, mais c'était pour essayer de voir quel écho a laissé dans le diocèse, peut-être dans notre région, le cardinal Saliège jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retenu dans cette homélie? Qu'est-ce qui vous a frappé?
Dans l'homélie, c'est le rôle que Mgr Le Gall attribue avec justesse à la mission de l'évêque. Mgr Le Gall a fait le lien avec la tradition de l'évêque depuis les origines, depuis le pape Saint Léon le Grand, qui fait face à Attila, qui s'oppose ensuite à un pillage de Rome. C'est l'époque où les évêques se révèlent les défenseurs des cités ou des États quand ils sont menacés. C'est ce qu'a fait en somme Saliège. Il s'est érigé en défenseur de la cité. Et d'ailleurs, lorsque le général de Gaulle, en septembre 1944, sera à Toulouse libérée, son propos, c'est de dire, devant l'assistance au Capitole, Toulouse n'a jamais douté de la victoire de la France. Toulouse, bien sûr, dans le vocabulaire du XVIIIe siècle, désigne l'évêque de la ville épiscopale. Toulouse, Saliège n'a jamais douté. Et lorsque le cardinal Monseigneur Le Gall fait le lien avec la mission épiscopale et la mission pontificale, il montre bien que le pape François, en notre monde où la barbarie renaît, reste l'une des rares figures reconnues par tous, capable de redire haut et fort, comme l'avait fait à Toulouse le cardinal Saliège, la dignité de la personne humaine. C'est cela qui domine.
Eh ben, on finira là-dessus, sur ce parallèle qu'a fait Mgr Le Gall lui-même, donc le 10 novembre dernier, entre le cardinal Saliège et le pape François. Voilà, merci beaucoup, Père Jean-Claude Meyer, d'être venu ce matin nous parler du cardinal Saliège. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.